Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Recep Tayyip Erdogan ne cédera pas plus aux menaces américaines d'asphyxier l'économie turque qu'aux indignations toutes européennes. L'attaque qui vise les IPG kurdes en Syrie ira à son terme, déclare-t-il ce soir. Les 27 de nouveau en tractation avec Londres sur le Brexit, feuille de route en vue lundi matin. En principe, prudence requise. Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, le premier ministre éthiopien encouragé à poursuivre des réformes menacées par des violences intercommunautaires d'envergure, invité de ce journal. Gérard Prunier, chercheur émérite au CNRS. Enfin, la rage de la mère d'un enfant qui a survécu à un cancer pédiatrique dont la prévalence inquiète les populations de la ville de Sainte-Pazanne et environ en Loire-Atlantique. 17 cas déclarés ces derniers mois, 3 enfants décédés et rien venant des autorités sanitaires. Mais avant de développer ces titres, l'arrestation en Écosse de Xavier Dupont de Ligonnès. On vient de l'apprendre, Xavier Dupont de Ligonnès soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants au début du mois d'avril 2011. Plus de 8 ans de cavale ponctués d'apparitions, voire de prétendues apparitions, Delphine Gocho.
Oui, surtout, vous le savez, que toutes les spéculations avaient prospéré au cours de ces 9 années. On l'a dit mort, on l'a aperçu des centaines de fois, à peu près partout en France et à l'étranger. Il y a eu des battues, il y a eu dans le massif des morts notamment. La dernière fois qu'on l'a vraiment identifié, c'était peu de temps avant la découverte des corps de sa femme et de ses 4 enfants enterrés sous leur terrasse, vêtus de leurs vêtements de nuit, recouverts de chaux. Et depuis, toutes les spéculations allaient bon train. Et ce soir, donc, Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté en Écosse, à Glasgow, après 9 ans de cavale. Comment Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il été arrêté? Eh bien, sur dénonciation, parce qu'il y a eu un coup de fil aujourd'hui à la police, prévenant les enquêteurs, les policiers, que Xavier Dupont de Ligonnès allait prendre ce vol entre Roissy et Glasgow en Écosse. La police française n'a pas eu le temps de procéder à son interpellation avant le départ du vol, mais a tout de suite évidemment prévenu Europol, et qui a donc procédé à son interpellation, à sa descente d'avion à Glasgow. Il voyageait bien évidemment, vous vous en doutez, sous une fausse identité, avec de faux papiers, mais ses empreintes digitales l'ont confondu. C'est bien lui. La cavale de Xavier Dupont de Ligonnès a donc pris fin ce soir.
Merci à vous de vos précisions. Delphine Gocho, 3e jour de l'offensive turque dans le nord syrien contrôlé par la principale milice kurde, les unités de protection du peuple, d'intenses combats, notamment aux abords des localités de Ra'is al-Anin et Tal Abyad, et une intraitable guerre des communiqués. Ce soir, l'administration kurde livre force précision sur ce qu'elle considère comme une urgence et un danger, les conséquences de l'attaque turque sur les camps de réfugiés. C'est une correspondance de Beyrouth d'Aurélien Colli.
Pour les autorités kurdes, ce sont les bombardements turcs qui ont imposé l'évacuation du camp de Mabroka, situé à une dizaine de kilomètres de la frontière, 7000 personnes environ transférées plus au sud, près de la ville de Asaké, située en principe hors de la zone de sécurité que la Turquie veut créer avec son offensive. Des discussions sont en cours pour évacuer un autre camp à Ayn Issa, lui aussi touché par des bombardements turcs selon les forces kurdes, mais la mission est plus délicate car sur les 13 000 déplacés qui y vivent, 800 sont des proches de djihadistes de Daesh. Dans le plus grand camp du Kurdistan syrien, celui de Al-Hol, où s'entassent près de 70 000 personnes, majoritairement des familles de djihadistes. La situation s'est également tendue aujourd'hui. Manifestations, jets de pierres contre des gardiens kurdes, avant que le calme ne soit rétabli. Un climat insurrectionnel inquiétant, alors qu'aucune ONG n'y intervient et que les équipes médicales kurdes s'en sont retirées pour traiter en priorité les victimes de l'offensive turque. Les forces kurdes sont aussi confrontées à un regain d'attaque attribué à des cellules dormantes de Daesh qui profitent de leur mobilisation sur le front. Un attentat à la voiture piégée a notamment visé cet après-midi un restaurant de la ville de Kamishli, considéré jusqu'à présent comme sécurisé.
10 civils ont été tués par des obus tirés depuis la Syrie par une milice kurde sur des villes frontalières turques, notamment celle Nusaybin dans la province de Mardin. Selon les autorités locales, l'Union européenne menace la Turquie de sanctions et les Pays-Bas suspendent toute nouvelle exportation d'armes vers Ankara. À 6 jours d'un sommet européen, reprise d'intenses négociations sur le Brexit, après une rencontre qualifiée de constructive entre le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier, et son homologue britannique, Stephen Barclay, ce sont là des informations émanant de diplomates. Angélique Bouin est à Bruxelles.
Il y a 2 jours, devant les eurodéputés, Michel Barnier disait en effet qu'à ce stade, la position britannique n'était pas acceptable. Mais Londres aurait fait de nouvelles propositions sur 2 points de blocage, l'épineuse question des contrôles douaniers sur l'île d'Irlande et le droit de veto donné à l'Irlande du Nord sur cette question du Brexit. On n'en connaît pas le détail, moins on en dit, mieux c'est, a déclaré le Premier ministre irlandais après sa rencontre hier avec son homologue britannique Boris Johnson. Des discussions orales qualifiées également de constructives ce matin entre le négociateur Michel Barnier et son homologue. Reste à négocier point par point, un document écrit, précis et juridiquement acceptable par les deux parties. C'est à cela que vont s'atteler les négociateurs des deux camps. Ils seront mobilisés tout le week-end avec l'idée de présenter une feuille de route dimanche soir ou lundi matin aux 27 ambassadeurs des pays membres. Et ce sera l'heure de vérité. On saura sans doute alors s'il y a une vraie volonté de trouver un accord. Il faut, comme toujours, rester très prudent. Toute cette agitation peut tout à fait déboucher sur rien, prévient une source européenne.
267 000 personnes ont fui leur foyer dans le nord et l'est du Burkina Faso en raison de l'attaque djihadiste. Ce sont des données livrées par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Le HCR parle, je cite, d'une crise humanitaire en cours. Récompensé pour ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale, en particulier pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée voisine. C'est avec ces mots que l'Académie des Nobel a félicité le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix 2019. Il aura su tourner une page, et laquelle, mais il reste tant à faire pour venir à bout des violences intercommunautaires. Ce soir, Amnesty International l'invite à faire plus pour les droits humains. Invité de ce journal, Gérard Prunier, chercheur émérite au CNRS. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Pourquoi, Gérard Prunier, ne pas l'avoir décerné aussi, ce Nobel de la paix, au président érythréen, Isaias Afewerki?
Bon, c'est probablement parce que le jury Nobel a quand même une compréhension de la réalité sur le terrain, et que cet accord de paix est entièrement à sens unique. C'est-à-dire, si on pense qu'un accord de paix, ça va avec une remise en jeu des formes de gouvernance, et notamment de la place des droits de l'homme et de la démocratie, du côté éthiopien, oui, du côté érythréen, non. Donc, c'est parfaitement logique de le décerner à celui qui essaye, avec d'ailleurs beaucoup de mal à l'heure actuelle, de remplir l'esprit de la chose et pas uniquement son aspect formel.
Avant d'en venir à ces réformes et à ces obstacles, à ces défis, quel impact, Gérard Prunier, peut avoir ce prix Nobel sur les ambitions politiques d'Abiy Ahmed?
Bon, écoutez, c'est pas énorme. D'abord, les Éthiopiens sont persuadés d'être les gens les plus remarquables du monde. Ils pensent qu'ils sont des gens supérieurs aux Africains, aux Arabes, aux Européens. Et ils ont une extrême satisfaction d'eux-mêmes, qui d'ailleurs est souvent justifiée. C'est simplement, les Éthiopiens diront, on a reconnu la noblesse et l'importance de notre chef d'État. C'est parfaitement normal.
Bilele Seyoum, porte-parole d'Abiy Ahmed, estime, je cite, que ce prix va catalyser les réformes. Mais de quelles réformes s'agit-il? Et dans la foulée, quelle serait la plus urgente des réformes à mener?
Ça, c'est pas faux. Ça, c'est là où il y aura quand même un coup de piqûre de vitamine pour ce que fait le Premier ministre à l'heure actuelle. C'est que à l'heure actuelle, il faut changer fondamentalement la gouvernance qui a été celle de l'Éthiopie depuis la chute du régime stalinien en 1991. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce que ce qui avait été instauré par le président, premier ministre, il a eu plusieurs fonctions, Meles Zenawi à l'époque, c'était un système qu'on appelait le fédéralisme ethnique, où c'était l'utilisation politique des clivages ethniques dans le pays. N'importe quel chef d'État africain à qui vous expliquez ça hausse les sourcils en disant « Mon Dieu, pourquoi oser faire une chose pareille ?» Mais c'était très simple. Les Tigréens représentent à peu près 5 à 6 % de la population éthiopienne. Et par ce mécanisme sur lequel il y avait des manipulations internes et des tricheries constantes, ça assurait la domination des Tigréens sur le restant du peuple éthiopien. Maintenant, étant donné que le chef de l'État représente, dans la mesure où il représente un groupe ethnique, c'est celui des Oromo, qui eux sont 35 à 40% de la population, on ne parle pas du tout de la même chose, il est bien évident qu'il faut essayer de se diriger vers un système démocratique qui minimise le fait ethnique.
Alors justement, à cet égard, est-ce que vous pensez crédible, envisageable, la tenue d'élections programmées en mai prochain ?
Mai prochain, c'est bien rapide. Étant donné tout le travail qu'il y a à faire, à la fois au niveau infra, c'est-à-dire politique, puis au niveau supra, tout simplement, recensement, liste électorale, etc., on est encore sur tout le canevas de 2005, qui a été un échec total, et qui est d'ailleurs le point de départ de la liquéfaction actuelle du régime. Si on veut que ces élections aient lieu, et c'est à peu près inévitable, obligatoire, je pense qu'il va falloir les reculer un peu.
Et pour l'Afrique du Nord-Est, ce prix Nobel, que peut-il représenter ?
Peut-être une leçon de sagesse, parce que on a longtemps dit Éthiopie-Érythrée, c'est absolument impossible d'arriver à quoi que ce soit. Et bon, dans un sens, ce qu'a fait Abiy Ahmed, c'est de dire, bon, écoutez, que de l'autre côté, il soit plein d'enthousiasme ou d'ouverture, ça c'est secondaire, on va essayer de mettre quelque chose sur la table qui va au moins éviter la perspective de rester dans un état de guerre latente. Et c'est ça qui a été obtenu. On n'a pas fait la paix, mais on a institutionnalisé la non-guerre. C'est déjà pas mal. Quand on regarde l'Égypte, quand on regarde la Libye, quand on regarde ce qui peut arriver demain en Ouganda, quand on regarde le Sud-Soudan, il y a qu'un seul pays qui est sur la même longueur d'onde que M. Abiy Ahmed, c'est le Nord-Soudan. Ce qui vient de se passer au Nord-Soudan, où là, la gouvernance fondamentale est en voie de transformation. Mais pour le restant, ça serait plutôt une leçon de sagesse.
Merci à vous, merci Gérard Prunier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur émérite au CNRS et consultant indépendant. Donald Trump vient d'affirmer que les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord commercial partiel très important, ce sont ces termes, dont les détails concrets n'étaient pas encore disponibles. Cet accord comprend des achats de biens agricoles, mais aussi des éléments comprenant la propriété intellectuelle et les services financiers. À l'instant, le Trésor américain prétend qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes douanières contre la Chine, initialement prévu le 15 octobre prochain. La CGT appelle à une nouvelle mobilisation demain dans les rues de Rouen au terme de la première réunion du comité pour la transparence et le dialogue depuis l'incendie de l'usine Lubrizol il y a 2 semaines. Réunion en présence des ministres Agnès Buzyn, Elisabeth Borne et Didier Guillaume. Une énième campagne de communication selon la CGT. Mobilisation demain, entre autres pour une politique industrielle respectueuse de la santé des travailleurs. À Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, un autre suivi qui a trait à la culture de l'opacité de la puissance publique, le suivi des cancers pédiatriques dont la prévalence ces derniers mois inquiète la population. 17 enfants ont déclaré des cancers dans un rayon de moins de 10 km autour de cette ville de 6000 habitants. 3 enfants sont décédés. Comment rester sans agir face à une concentration exceptionnelle? Hier donc, les familles attendaient des résultats des enquêtes confiées à Santé publique France et à l'Agence régionale de santé, et les parents n'ont rien appris. Enfin, si les prélèvements prévus à partir du mois de novembre seront très restreints. Marie Thibault, dont le fils a survécu à un cancer, ne décolère pas.
Pas d'analyse de l'air extérieur, d'accord. Donc on ne prend pas en compte la pollution environnementale autour. L'analyse de l'air intérieur, elle est faite dans nos domiciles, donc les 17 familles dont l'enfant a déclaré un cancer. Et puis dedans, on va chercher par exemple du formaldéhyde. Mais très bien, mais le formaldéhyde s'est retrouvé absolument partout, dans toutes les habitations, chez tout le monde en France, dans tous les magasins. Alors là, je ne comprends plus. Si c'est ça qui déclare les cancers de nos enfants, C'est pas possible, en fait.
Mais ils ne vont rien chercher d'autre.
Alors, il n'y a pas que du formaldéhyde, il y en a d'autres également, mais qui sont du même ordre. En fait, ils ne sortent pas des sentiers battus du tout. On est vraiment sur quelque chose de très simple. L'eau, c'est pareil. L'eau, ils ne vont chercher dans l'eau que les pesticides. Écoutez-moi bien, ils nous ont dit qu'ils sont vendus, puisque c'est sûr que personne n'achète rien sur Internet, personne. Les seuls pesticides qui sont utilisés, c'est bien connu, ce sont que ceux qui sont répertoriés là dans les listes des achats. Non mais sauf que nous, dans le corps de nos enfants, tout ce qui a été retrouvé, c'est totalement interdit et retiré du marché. Mais non, ils ne vont pas le chercher. Ils ont décidé de ne rien aller chercher de tous les polluants. Ça ne va pas du tout. Bon, moi, je ne comprends pas la méthodologie, finalement. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible pour eux. OK, ils ne vont pas faire de la recherche. Mais quand même, quand ils viennent à nos domiciles, mais qu'ils aillent rechercher l'ensemble des polluants qui sont retrouvés sur notre secteur de manière générale. Là, aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont en train de tomber malades. On fait quoi maintenant? On fait quoi pour hier? On fait quoi pour demain?
Marie Thibault, l'une des fondatrices du collectif Stop au cancer de nos enfants, avec Tara Schlegel. Quelques mots de la météo demain, de la pluie près de la Manche autour du golfe du Lion. Ailleurs, alternance entre soleil et nuages. Édition préparée avec Caroline Beneteau à la technique, Jérémy Kaufmann.